Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Et si on rentrait dans la tête d'un pilote ? Aujourd'hui, dans cet épisode d'Extraterrien, je te présente Victor Martin. Si tu ne le connais pas, c'est un jeune pilote de 22 ans, considéré comme le prodige des sports automobiles français. On l'a mis dans un kart pour ses 10 ans et à 15 ans, il était déjà champion du monde junior de la catégorie Rennes en karting. Aujourd'hui, il a 22 ans, il est en Formule 2, il est prêt à tout rafler et surtout atteindre son rêve ultime, concourir en Formule 1. Et même, pourquoi pas, d'aller challenger sa source d'inspiration première, le fameux pilote Lewis Hamilton. Vous allez voir, c'était un épisode sensationnel, tant Victor est un obsédé de la performance. Il a mis énormément de choses en place pour ne rien laisser au hasard et pour performer sur la piste. J'ai été bluffé par son excellence, sa discipline, et on a aussi parlé de la mentalité des pilotes très particulière. J'ai voulu aussi aller plus loin et creuser les backstage des sports automobiles, et notamment le prix, et savoir quel était le business model pour une équipe et pour un pilote comme lui. Victor a été sans filtre et il nous a livré tous les chiffres. Donc mets ta ceinture, car cet épisode va vraiment à 100 à l'heure. Mais juste avant ça, pour cet épisode, j'aimerais remercier Corum l'épargne, le partenaire officiel de Victor dans son ascension pour aller jusqu'en Formule 1. Si tu ne connais pas Corum l'épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde qui peut paraître complexe de l'épargne. Ils ont plusieurs solutions qui sont à la fois transparentes, car c'est important de comprendre où est-ce qu'on met son argent, et très accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir à partir de seulement 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même commencer avec une petite somme pour se lancer. Je vous rappelle qu'investir comporte des risques, comme la perte en capital. Donc faites attention et choisissez des partenaires d'excellence. Sachez que Corum est une équipe très sérieuse qui a accompagné plus de 120 000 épargnants en 12 ans. Et je leur fais confiance car j'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Ils ont développé une superbe team d'athlètes et vous pouvez retrouver les résultats des athlètes de leur team sur le compte Instagram corum.sport. Allez, c'est la fin de cette intro, on attache notre ceinture, on retire le frein à main et on passe la première pour cette interview exceptionnelle avec Victor Martin. Eh ben, salut Victor.
Salut.
Tu vas bien ?
Ça va, merci de m'accueillir.
Bah écoute, c'est un grand plaisir, franchement, je suis trop content d'être là aujourd'hui. J'ai kiffé préparer l'épisode, franchement, j'ai kiffé me plonger dans ton univers, découvrir la Formule 2, découvrir ton parcours aussi que je connaissais pas bien. Donc j'espère qu'on va se régaler aujourd'hui, on va pouvoir parler plein de choses. En plus, on a été mis en relation avec par Corum l'épargne, avec qui ça se passe super bien. J'adore le partenariat qu'on est en train de faire, donc j'étais sûr qu'ils allaient me présenter une bonne personne, donc on a un bon programme aujourd'hui.
J'ai hâte de répondre à certaines questions, enfin même à toutes les questions, parce que je sais que ça va me permettre de me rappeler de belles choses de ma carrière et de ma vie au quotidien aussi.
Yes, bah effectivement, j'ai envie qu'on parle de ton parcours, j'ai envie d'avoir un peu tes tips de performance. Je sais que t'es un peu un petit geek là avec la Oura Ring et, ouais, et la Whoop. J'ai envie qu'on parle vraiment de pilotage, j'ai envie aussi de comprendre un peu les mécanismes financiers derrière tout ça. Mais avant, j'ai une première question que j'ai posée à 300 athlètes, c'est la question traditionnelle ici, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport ?
Mon premier souvenir de sport, c'est quand j'étais jeune, je devais avoir peut-être 5 ans, même moins que ça. J'allais voir mon grand frère qui faisait de la gymnastique à l'époque et j'allais à chaque fois le récupérer avec ma mère à chaque cours qu'il faisait. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai démarré ce sport. Donc en fait, c'est le premier souvenir où je grimpais un peu partout, où je faisais, j'essayais de faire tout ce qu'il faisait. Bon, il a 4 ans de plus que moi, donc c'était un peu compliqué. Mais en fait, c'était le début de partager la même passion qui était d'abord la gymnastique. Bon, après, ça a changé, bien évidemment. Mais voilà, c'est les petits souvenirs que j'ai. Après, j'en ai plein d'autres. Hein. J'ai regardé la F1 dans le canapé avec toute ma famille quand j'avais 8 ans ou un truc comme ça. Donc non, j'en ai plein.
Ok. T'as fait longtemps de la gymnastique ?
J'ai fait de 5 ans à 11 ans. Ouais,
ok.
Ouais, j'ai fait. Ça a quand même été. J'ai fait beaucoup de gym.
Okay.
Surtout. Enfin, je devais en faire peut-être presque 12 heures par semaine.
Wow.
Quand j'avais 10 ans.
Wow.
Ouais, non, ça. Ouais. La gym, ça a été une bonne partie de ma vie et de mon enfance. Donc.
Ok.
Ouais, c'est ce qui m'a permis après d'être très bien physiquement et du coup de. Bah, d'arriver en sport automobile et d'avoir cet petit avantage aussi par rapport aux autres.
Tu dirais que ça sert à quelque chose, ouais, d'avoir fait autant de prépa physique, autant de souplesse, autant d'explosivité, c'est utile.
Ça m'a servi sur le côté physique, mais je pense que ça m'a servi aussi sur le côté mental, d'être... déjà quand j'avais 8 ans, hein, je faisais déjà des grosses compétitions. En fait, à 10 ans, j'étais champion de France, donc ça a été vraiment... Je pense que ça m'a appris beaucoup de choses, la rigueur, la discipline, cette concentration, cette pression envers le résultat et d'avoir déjà du monde quoi. Il y avait, je me rappelle le championnat de France, c'était dans un stade, c'était à Toulouse, mais c'était énorme quoi déjà. Il y avait déjà pas mal de monde qui regardait et tout. Ouais, ça m'a appris beaucoup de choses, je pense, mais pas seulement sur le côté physique.
Donc t'as pris goût à la victoire très jeune, quoi.
J'ai beaucoup, sans prétention, j'ai beaucoup gagné. Et c'est vrai que quand je regarde un peu comment ça s'est passé, j'ai eu l'impression que c'était... j'avais une certaine facilité, je prenais énormément de plaisir. Je travaillais, mais pas autant que je peux travailler maintenant dans le sport auto. Donc ça m'a appris... De gagner, voilà, de cette détermination envers la victoire. Mais aussi, ça, je pense, il y a eu des moments où c'était un peu trop... je gagnais souvent, honnêtement, c'était vraiment tout le temps. Et je me rappelle, il y avait des petites engueulades avec certains de mes coéquipiers et tout. Mais bon, ça, c'était quand on était jeunes, hein, donc ça va.
Ouais, faut apprendre à gérer l'ego, c'est sûr. Quand on est enfant, on est cruel, on est
dur. On pense qu'à soi, c'est sûr.
Un peu humble aussi, ça s'apprend. Ouais. Pourquoi, si t'es champion de France à 10 ans et tout, qu'est-ce qui fait que t'arrêtes la gym ?
La passion. Enfin, je prenais plus autant de plaisir qu'avant. Je m'amusais. En fait, je m'amusais à sauter partout, à aller faire du trampoline, mais plus à travailler. Et du coup, c'est vraiment pour ça, en fait, c'est que j'ai vu jusqu'à un certain moment, jusqu'à mes 11 ans, j'ai arrêté à 11 ans, juste après la Coupe de France, je me rappelle, à Bourges, exactement. Je fais deuxième et là, j'arrête parce que je prenais plus de plaisir. Et en fait, je commençais à suivre beaucoup la F1, le sport auto, à découvrir plein d'autres sports. Il y a un moment donné, je faisais 4 sports en une après-midi. Hein. Enfin, je veux dire, j'avais été inscrit dans 4 sports. Et le mercredi après-midi, je faisais de la gym, je faisais du judo, du rugby et du baseball. Parce que mon père était en équipe de France de baseball, donc j'ai voulu essayer ce sport. Et j'allais de sport en sport dans l'après-midi et il fallait que j'en choisisse un parce que... Parce que c'était un peu trop, quoi.
Ouais. Écoute, j'ai reçu beaucoup de champions, beaucoup d'hyperactifs qui faisaient 1000 sports à la fois. Mais faire 4 sports en une après-midi, j'en connais pas beaucoup. Moi, j'avais un truc dans ma ville qui s'appelait le CIS. Et c'était très bien parce qu'enfin, en gros, en une matinée, c'était pour les parents, c'était trop cool parce que tu sais, c'était un espèce de centre aéré. Et en une matinée, tu testais 3 sports et tous les trimestres, ça changeait. Donc, tu vois, on faisait de l'ultimate, on faisait de l'athlé, on faisait du rugby. Après, c'est pour les gamins, tu vois. Mais ça permettait de toucher à tout. Donc, déjà, je trouve ça beaucoup, quoi. Donc, toi, 4, waouh.
Non, j'en ai fait plein d'autres. Hein. J'ai fait du badminton avec l'école. Je sais plus comment on appelait ça, les compétitions entre les. Je sais
les compètes inter-écoles, ouais, je sais pas.
Je sais plus le nom, mais je faisais ça. Mais aussi, limite, je voulais commencer dans un club. Parce que, non, vraiment, j'en ai fait plein. J'ai fait du hand.
Si ça avait pas été la course automobile, t'aurais fait quoi ? Lequel tu préférais
Je sais pas. Parce que j'ai fait du foot aussi, j'étais gardien. Bon, je suis pas assez grand. Je pense que j'aurais arrêté. Bah, je sais pas. Okay. J'ai beaucoup aimé les sports mécaniques, dont la motocross. Et en fait, petite anecdote, c'est qu'avec, je la raconte assez souvent, c'est que quand j'ai été champion de France de gym, j'avais fait un pari avec mes parents. Parce que moi, quand j'étais jeune, plus trop maintenant, mais quand j'étais jeune, je marchais beaucoup au pari, à cette motivation d'avoir quelque chose derrière et tout ça. Et avec mon père, c'était que ça, quoi. Et un jour, vu qu'en fait, quand on était jeune, mes parents avaient ils avaient des quads, des petites motos. Mon frère, il avait un Piwi, des Piwi 50 pour s'amuser un petit peu comme ça. Parce que mon père était un grand fan aussi de sport mécanique. Et du coup, il me dit, si tu gagnes le championnat de France, je t'offre une moto. Et vraiment, c'était... moi, je voulais le titre de champion de France, mais je voulais aussi cette moto derrière. Et en fait, je l'ai eu, du coup, avant d'être champion de France. Pourquoi, je sais pas, mais mon père, elle était déjà à la maison, il m'a dit, avant que je sois... Il était très confiant, je pense. Et du coup, en fait, j'ai commencé par faire de la moto avant de découvrir le karting.
Ok, d'accord.
Donc, si j'avais eu la même opportunité... que le karting, d'y aller aussi souvent, d'avoir financièrement aussi cette volonté d'y aller, je pense que ouais, j'aurais essayé de faire de la moto.
Ok.
Parce que je suis un grand fan de sport mécanique, un peu de tout ce qui a des moteurs.
Ok. Tu saurais dire pourquoi ?
Bah, la vitesse, l'adrénaline, les sensations, je pense que en moto, en l'air, quoi. Même en fait, je pense que ça, je l'ai ressenti, je l'ai créé en gym, d'être souvent la gestion dans l'espace de mon corps et de savoir où je suis. Et je pense qu'en moto, sur ces choses-là, c'est assez similaire. Et après, la voiture, parce que... Je sais pas, la vitesse, tout simplement, la prise de risque, cette adrénaline-là qu'on a quand on conduit à 200, 300.
Ouais. C'est qui tes sources d'inspiration ou... Est-ce que le petit Victor, il était un peu fan de certains pilotes ou est-ce qu'il y avait certains pilotes que t'appréciais particulièrement ?
Lewis, quand j'étais encore aujourd'hui, mais peut-être un peu moins, j'ai jamais eu vraiment d'idole ou c'est juste ils m'ont inspiré, j'ai suivi leur parcours, ce qu'ils faisaient. Vraiment au quotidien ou le plus possible, parce qu'Hamilton c'est pas le plus facile à suivre au quotidien, on sait pas trop ce qu'il fait des fois, mais ouais, ça a été lui. Et c'est ces moments-là, je me rappelle quand j'étais jeune ou les Grands Prix de F1, je suivais lui. En fait, je pense qu'on est jeune, on aime une voiture, on aime une couleur de voiture, on aime un pilote et on le choisit, on sait pas trop pourquoi, et après on continue à le suivre et ça a été lui. Et jusqu'à maintenant. Et tout le temps, je pense que c'est lui que je suis le plus.
Mais je trouve il a un côté assez magnétique, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire, mais tu vois, il est jeune, il détonne un peu, il a pas le même look que les autres.
Non, on a envie de...
Puis il est arrivé très tôt, quoi. Je sais plus les premiers podiums qu'il fait, mais il était vraiment jeune. Donc il y a un petit côté où t'aimes bien l'outsider, quoi.
Bien sûr. Il a pas eu une carrière aussi très très facile, mais par contre il a toujours gagné et montré qu'il avait sa place en F1, quoi. Donc non, et puis là, côté aussi du côté sportif, il est hyper intéressant ce qu'il veut dégager et ce qu'il veut montrer aussi dans le sport. Donc je pense que c'est pour le global, quoi, moi, que je le suis.
Ouais, je trouve. Il a rendu très noble, je trouve, la F1, d'un côté un peu presque spirituel, tu vois, aussi.
Bien sûr.
Donc j'apprécie beaucoup l'athlète aussi également. Toi, à quel âge tu commences à gagner en karting, du coup ?
Alors, j'ai commencé entre 12 et 13 ans, parce que c'était plus du loisir au début, plus que de la compétition, parce que financièrement, on sait tous, un sport qui coûte très cher, où il faut vraiment y aller, quoi. Faut être motivé, faut avoir les ressources derrière. Et déjà, de prendre cette décision de commencer le karting, ça n'a pas été la plus facile par mes parents que pour moi, parce que moi, jeune, forcément, je voyais que le côté... Le bon côté, quoi, de s'amuser, de faire du karting. Mais après, il y avait le côté vraiment financier. Mais 12-13 ans, et en fait, après, ça, c'est parti très vite. J'ai été, du coup, champion du monde à 15 ans. Et j'ai vraiment commencé vraiment la compétition au niveau national, 13, 14. J'ai passé 2 ans en France.
Okay.
Et après, où je faisais tout ce qui était régional, enfin, toutes les courses en Île-de-France, dans la région. Et après, il y avait le championnat de France, où je fais 3e. Et après, en 2016, je passe en hockey junior. Je ne sais pas si, okay, si tu vois ce que c'est. C'est la catégorie à 15 ans la plus haute dans le monde. Okay. Où c'est vraiment c'est des moteurs qui vont super vite, bien évidemment. Mais c'est tu vas dans le monde entier, quoi. Surtout en Europe, en Italie, au Portugal, en Espagne. Et tu fais... c'est le plus haut niveau.
Ok.
Du karting à cet âge-là. Et du coup, j'ai remporté le championnat du monde à Bahreïn à 15 ans.
Wow. Donc une croissance
en 3 ans, ouais, en 3-4 ans en fait. Je fais une année où c'était un peu le loisir, c'était l'UFOLEP, et après j'ai fait vraiment 3 ans de vraie compétition avec la FFSA. Enfin, j'ai commencé à être soutenu par la fédération à la fin.
La fédération te finance en partie?
Pas au tout début, non, pas encore, mais par contre ils avaient des programmes. Il y avait un programme qui s'appelait le programme 10-15, donc 10-15 ans, c'était vraiment pour les jeunes. Ils avaient leur équipe de France, mais avant l'équipe de France, tu avais un petit programme où ils détectaient, ils prenaient des petits jeunes, on devait être 4-5. Et fin de la première année vraiment de compétition, j'entendais déjà quoi qu'ils voulaient me prendre. Et la deuxième année, du coup, j'avais déjà intégré ce programme-là.
Okay.
Qu'après qui s'est terminé. Et du coup, en 2016, j'ai intégré directement l'équipe de France.
Mais, ok.
En fait, c'est toutes ces rencontres-là, toutes ces choses-là qui ont fait que on s'est toujours dit, on continue, on va plus loin, ça marche. On a les personnes qui nous font confiance, qui nous aident, qui nous disent allez là, et c'est plus comme ça. C'est au début, forcément, moi j'avais le rêve et cet objectif d'aller en F1, parce que voilà, je voyais le truc comme un jeune qui avait un rêve. Mais c'est vrai qu'après il y a eu des moments et des étapes qui m'ont confirmé que c'était bien ça que je voulais faire et que j'avais une réelle opportunité de y aller, quoi.
C'est quoi du coup le parcours un peu classique quand t'es pas fils de milliardaire?
C'est gagné.
pour passer effectivement du karting, tu vois, avec où tu gagnes les championnats de France, les championnats du monde, jusqu'à la F1 en fait. Moi, ce que j'ai compris, tu vois, ce que j'ai un peu compris de la F1, c'est que c'est de la sélection un peu subjective quand même, tu vois. Des fois c'est des relations, des fois c'est de l'argent. Donc comment, tu vois, quand on vient pas du sérail entre guillemets, comment est-ce qu'on se fait sa place?
On gagne, faut gagner partout où on va et vraiment avoir cette motivation en plus, peut-être que les autres pilotes, tout simplement. Après, il y a vraiment il y a un parcours, hein. C'est vraiment de commencer par le karting déjà, que ce soit loisir ou en compétition directement. Moi, j'ai commencé plutôt loisir au début, et après, c'est devenu compétition. Et c'est vraiment, moi, j'ai fait des courses au niveau national en France avec la fédération, avec la FFSA.
Ouais.
Et après, quand j'ai vu que j'étais assez bon, que j'avais l'opportunité d'aller avec une bonne équipe à l'international, faut y aller, parce que c'est là où on se fait détecter en fait par les équipes de F1, en fait il y a plein de monde. C'est en grandissant que j'ai compris qu'ils envoient des personnes sur les courses, mais pas forcément des patrons d'écuries en F1, hein. C'est pas forcément moi, mon patron Bruno Famin qui va aller sur une course de kart, ou Fred Vasseur ou Toto Wolff, c'est plus des gens qui s'y connaissent, qui ont des liens, qui vont regarder, qui vont aller regarder s'il y a des petits jeunes ou des personnes qui sont envoyées par les académies pour aller voir des coachs, pour aller voir s'il n'y a pas un petit jeune à prendre. Et en fait, c'est l'endroit où il faut être. C'est le championnat du monde, le championnat d'Europe avec la CIKFIA. C'est de faire ce championnat-là, de gagner et puis après d'avoir l'opportunité de passer en F4. Donc après, français, c'est vrai que moi, la décision a été facile à prendre, c'est de faire un championnat de France F4 avec la fédération et après de monter en Formule Renault, Formule 3, Formule 2 et après, si tu gagnes la F1 derrière. Et après, forcément, d'être soutenu par une académie parce que tu peux pas... aujourd'hui, c'est quand même très compliqué financièrement de y arriver si t'as pas les moyens. Donc vraiment, pour ma part, si j'ai pas une académie derrière, c'est juste impossible. Donc même sur le côté image, de montrer qu'il y a vraiment le projet est concret et fort et tout le monde y croit en fait.
Ok.
Donc voilà, c'est d'emmener tout le monde avec soi et d'y aller quoi jusqu'au bout.
Ok. Tu peux expliquer pour les auditeurs et les auditrices qui savent pas trop, enfin qui viennent moins du milieu, ce que c'est qu'une académie en fait?
Alors c'est comme un, on va dire, c'est un junior team quoi. C'est une académie où ils vont prendre des jeunes pilotes, ils les détectent, ils croient en eux, ils financent ou pas. Parce que le sport auto, ouais, c'est un peu à part, c'est qu'il y a aussi certains pilotes qui aussi payent, comme si c'était une prestation de l'équipe de F1 pour être suivi. Donc c'est un peu, il y a des pilotes qui payent, qui payent pas, qui sont financés, enfin qui l'académie finance leur carrière et les aide pour arriver en F1. Mais de base, voilà, une académie, c'est pour aider le pilote, le prendre pour qu'un jour, il ait une opportunité d'arriver en F1 avec l'équipe en question.
Ok.
Donc pour ma part, moi, c'était Renault avant, ouais. Renault Sport Academy. J'ai été pris par Renault avec un contrat qui dit que si je fais les résultats et je gagne les titres, bah, à chaque fois, je monte en catégorie pour arriver un jour à avoir une chance avec Renault, mais du coup c'est devenu Alpine et c'est pareil hein. c'est la même chose, c'est ils me prennent et l'objectif c'est qu'un jour on soit en F1 ensemble.
Ok, ouais, parce que eux, ils sont présents dans toutes les catégories en gros et ils te disent ok, c'est quasiment
quasiment en fait ils décident quel pilote ils prennent
dans quelle catégorie. Donc,
généralement voilà, ils prennent un peu partout. Ils essayent de pas en prendre. Quand on a plus que 5, ça commence à être compliqué parce que tu peux bien comprendre que quand il y a peu de place en F1 pour avoir l'opportunité de mettre les 5, après forcément faut multiplier ses chances parce que à la fin ça peut rapporter aussi beaucoup à l'équipe de mettre un de ses pilotes en F1, mais ils en ont un peu partout.
Ouais, ok.
Ils décident en fait.
Ok. Donc tu dépends effectivement un peu de leur volonté à ce niveau-là et de où est-ce qu'ils veulent te mettre.
Non, après c'est une décision ensemble quoi. On discute, on se pose. Moi j'ai un management personnel qui gère aussi la relation avec eux. Et après j'ai ma famille forcément, mais tout le monde se coordonne et discute de ce que l'on veut, où on veut aller et ce qu'il faut faire. Après, et des fois, c'est pas tout le monde pense pareil, hein, bien évidemment, mais voilà. Mais après, c'est dicté aussi beaucoup par comment la saison se passe, les résultats, du coup, l'opportunité que t'as avec certaines équipes ou pas, en fait. C'est beaucoup ça, c'est beaucoup. Un jour, tu t'es le. Je pense dans tout, hein, dans tous les sports, mais c'est vrai que dans le sport auto, c'est un jour t'es un héros et le lendemain, si tu fais une erreur, t'es zéro, quoi. Donc, mais ça, après, c'est comme ça, faut s'y faire.
Ouais, bah ça c'est clair. Ça fait partie de. Tu montes aussi haut que tu ne redescends vite, hein, donc ça c'est la dure loi du sport, comme
bien
on dit.
Sûr.
T'as appris quand même super jeune, du coup, les consciences de l'importance du financement, des sponsors, de tout ça. J'ai l'impression que c'est que ça fait prendre en maturité x10 quoi, parce que t'es tout de suite confronté à la réalité de ce sport-là où les saisons, je sais pas combien coûte une saison aujourd'hui, mais
ouais, c'est énorme.
Ouais, c'est énorme.
C'est des budgets. Il y a des tranches hein, de toute façon il y a rien, on cache après je vais pas aller à l'euro près hein, mais c'est aux alentours de 2 millions d'euros une saison de Formule 2
qu'il faut financer. C'est toi qui l'avances, c'est toi qui dois l'avancer
par soi-même ou justement par l'aide d'une académie, d'une équipe de F1 qui t'aide à financer les saisons, par tes sponsors personnels ou simplement par tes ressources personnelles de ta famille. Donc après moi, c'était pas forcément le cas, donc fallait trouver des sponsors, après il y a aussi des fois des investisseurs qui veulent investir sur toi et après les académies de F1.
Et les rentrées d'argent, elles se font comment?
Alors c'est sur pas les moi prize qui money. C'est pas non. Il y a aucun prize money.
Ok.
Ou alors j'en ai jamais eu. Pourtant j'ai gagné des titres et j'ai jamais eu de prize money. Non, il y a vraiment pas de. Il y a pas de rentrée d'argent. C'est que de la sortie. C'est que tu perds jusqu'à un moment donné. Tu rembourses si tu arrives en F1 ou si tu vas dans une autre catégorie. Parce qu'à la fin, il n'y a pas que la F1, il n'y a pas que la Formule 1, il y a d'autres catégories. Il y a l'endurance, il y a l'IndyCar, il y a le Super Formula au Japon. Enfin, il y a plein de catégories qui pourront te permettre de rembourser ou de bien gagner ta vie. Mais c'est vrai que normalement, 80%, je pense, des pilotes, des jeunes pilotes, on rêve tous de F1. Et quand on est dans la lignée monoplace, c'est pour aller en F1, c'est pas pour aller ailleurs. Mais c'est vrai que c'est que même nous, pilotes, on n'a pas de salaire jusqu'en Formule 1. C'est vraiment que tu dépenses, tu payes tes saisons, tu finances et à la fin, si tu y arrives, bah, tu fais... Moi, je le dis sans... Je suis assez honnête là-dessus. C'est vrai que quand t'es en Formule 1, après, ils gagnent très très bien leur vie. Après, faut durer, bien évidemment, parce que tu peux faire une saison et partir. Il y a déjà eu plein de cas comme ça. Mais si t'y restes sur des années, oui, tu rembourseras facilement tout ce que t'as dépensé. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est pas pareil que le foot où très jeune, tu gagnes déjà ta vie, tu peux créer des choses. C'est vrai que moi, je prends là l'exemple de moi-même, hein. C'est vraiment full focus sur le côté sportif, rien d'autre, parce que je sais qu'il n'y a que ça, que la Formule 1 qui va pouvoir m'aider, quoi.
Ok. Et donc, le plan idéal, c'est quoi ?
Le plan idéal, c'est là, à partir de maintenant,
ouais,
c'est gagner cette saison et après entrer en F1 l'année prochaine.
Ok.
C'est le plan idéal. Après, il y a plein de choses qui se passent en ce moment là. Il y a plein de pilotes qui signent ou qu'on entend qui vont signer dans tel week-end, telle équipe, et c'est vrai qu'ils peuvent fermer un peu le comment on appelle ça, le
mercato,
ouais,
peut-être,
on va dire le mercato comme au foot, mais c'est vrai que ça peut bloquer certaines opportunités et du coup libérer ou pas certaines places. Donc voilà, il y a le côté sportif, il y a le côté financier, il y a le côté politique en F1, c'est un peu... Faut que tout soit réuni, en fait. Mais pour ma part, c'est gagner, montrer que mon potentiel, il est là et que je suis prêt à rentrer en F1.
Ok. Tu discutes avec toutes les écuries, un peu en parallèle, ou ton management, ou...
Non, tu pas vois, forcément. Parce que ça s'entend et non, on peut vite casser une relation ou perdre confiance.
Ok.
Non, moi, c'est quand même assez clair. Hein. Depuis 2018, je suis avec Alpine, anciennement Renault, et c'est vrai qu'ils m'ont toujours soutenu de la bonne manière. Ils m'ont toujours mis dans les bonnes catégories. Ils m'ont toujours aidé correctement et avec toujours l'objectif d'aller en F1 un jour et de le faire avec eux. Donc, non, pour l'instant, c'est pas le cas.
Ok. Non, mais je voulais savoir, tu vois, toi, on entend beaucoup les footballeurs dont les agents, tu vois, discutent avec tous les clubs en même temps. On le voit des fois, enfin, il y a des situations un peu rocambolesques, tu vois, où t'as des bluffs, des faux bluffs, ça se téléphone et tout dans tous les sens. Et je me demandais, je pense que dans le foot, c'est permis parce que il y a beaucoup de trades. Tu vois, il y a énormément de volume de transactions, de joueurs et tout. Quand tu regardes les équipes, des fois, il y a des équipes qui changent du tout au tout d'une année à l'autre. Là, dans un milieu qui est beaucoup plus petit, où il y a 20 places, du coup, de pilotes pour la F1, tout se sait, quoi. Tu peux pas... Il n'y a pas 10 000 recrutements par an,
quoi. Ils sont tous amis ou ennemis, les patrons, mais ils parlent tous ensemble. C'est vraiment très, très... très petit, donc quand il se passe un truc, le team principal sait s'il la met à l'envers à une équipe, enfin voilà, tout se sait.
Donc, okay.
Vraiment, on reste assez, on essaye de rester fidèle. Et bien sûr, après, si on voit une opportunité ailleurs alors qu'on l'a pas avec notre équipe dans laquelle on est, c'est vrai que ça peut être frustrant, ça peut être un peu énervant, mais après, c'est en discutant, hein. On peut être un prêté, on va dire, comme on peut le faire au foot, et après revenir et toujours être sous contrat. Par exemple, tu peux être prêté ailleurs et toujours être sous, et que je sois toujours sous contrat Alpine, quoi. Et ça, c'est possible, mais c'est en discutant avec les écuries, quoi. Après, c'est vraiment fait, je pense, sur le moment. On sait pas, bien sûr, en avance, mais parce que faut préparer les saisons. Là, je pense qu'en ce moment, dans la tranche de 2-3 mois, c'est vraiment à ce moment-là que toutes les discussions vont se faire pour les baquets et confirmer les baquets pour l'année prochaine.
Okay.
Donc ça doit être fait en avance. Et c'est aussi pourquoi que c'est un peu compliqué, parce que moi, de mon côté, je dois gagner, montrer que je gagne le titre et je rentre pour rentrer en F1. Mais aussi, les discussions pour l'année prochaine se font là, bientôt, en ce moment. Mmh. Et le championnat, il termine qu'en décembre. Donc en fait, c'est juste montrer, gagner, être aux avant-postes, montrer, faire des belles courses, être intelligent, et ce qui va motiver les personnes derrière.
Il y a des moments de galère ou de stress de ne pas y arriver, justement, par rapport à tout ça, par rapport à un environnement qui est instable, où il se passe beaucoup de choses ?
Oui. Après, je trouve que pour ma part, non, ça a été à chaque fois une motivation ou vraiment de se remettre en question. Après, il y a toujours des petits doutes, mais ces petits doutes-là, ils n'ont jamais été, on va dire, assez forts pour que je perde toute confiance ou vraiment que je rentre dans un autre état d'esprit. Mais c'est juste de se remettre en question, de comprendre pourquoi. Mais par contre, oui, il y a de la pression, bien sûr.
Comment on rencontre des potentiels sponsors, des gens comme ça, tu vois, quand t'as pas le réseau, quand... T'as pas papa qui est milliardaire et tout. Comment toi tu crées ces opportunités-là, ces rencontres-là
Des fois c'est le hasard, j'ai envie de dire. Après il y a aussi le côté. Moi je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, j'ai fait beaucoup de choses avec mon grand frère qui a toujours été, qui est toujours là avec moi au quotidien, qui gère. C'est un peu mon manager au quotidien, quoi. Il va gérer un petit peu tous les petits problèmes, tout ce qu'il faut ajuster, les personnes à rencontrer, à aller voir, à solliciter. Mais en fait, on a fait pas mal de démarches ensemble. On est allé soit voir des amis à mes parents qui avaient une société, ou vraiment des rencontres par hasard. Mais après, par contre, faut le vouloir, quoi. Faut avoir quelque chose. J'avais une plaquette. Oui, c'est ça. Ah ouais. Une plaquette avec toutes les... plein de choses, mes résultats, mes ambitions, comment je suis, l'humain que je suis derrière, et d'aller voir après les gens et de discuter. Mais j'ai toujours cru et pensé de la manière où je me dis que en fait ça doit se faire naturellement. Si la relation, la personne m'aime bien et a envie de m'aider, elle m'aide. Si elle a pas envie, je vais pas aller montrer ma... J'ai jamais aimé d'aller montrer une plaquette. Je suis un tel, je fais ça, j'ai envie de faire ça, aidez-moi. Non, j'ai toujours voulu créer un lien, créer une relation. Et si la relation est bonne, on crée un projet ensemble. Là, c'est un peu l'exemple de...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
De Corum, ouais. L'épargne, où cette relation, j'ai rencontré le fondateur dans une salle de sport au hasard. On a commencé à parler de sport automobile, et ça s'est fait comme ça. On a parlé de sport, du projet voile, je vais pas m'attarder là-dessus, qu'ils avaient à ce moment-là, à l'époque. Et après j'ai rencontré les équipes, on a partagé un moment ensemble où on s'est dit on a les mêmes valeurs, quoi, les mêmes valeurs humaines, les mêmes valeurs du sport. Et en fait, le projet, on s'est revu et c'est parti comme ça. Mais voilà, c'est vraiment c'est la relation que moi j'aime avoir avec mes sponsors.
Ouais, ok. Ouais, ils n'étaient pas spécialement dans les sports automobiles. Toi, ça ne te pose pas de problème. Ce que tu veux, c'est de la perf, des gens qui
absolument
kiffent,
pas. C'est de l'engagement, de la performance, la motivation d'aller chercher l'excellence dans notre domaine, que ce soit le domaine de l'épargne ou du sport. Voilà, les valeurs sont les mêmes.
Ouais, c'est vrai. Mais il y a un gros projet sportif aussi. Est-ce que ça peut être intéressant pour toi en tant que pilote? Tu vois, c'est quand même un sport qu'on... Les sports automobiles, on les met très à part, tu vois. Est-ce que ça t'apporte, tu vois, de rencontrer des athlètes plus olympiques? Tu vois, là, je vais rencontrer Romain Dico, tu vois, par exemple, en judo.
J'aimerais. Parce que j'ai probablement fait tous ces sports. Donc, j'aimerais beaucoup.
Ouais, ça peut t'apporter de la valeur, quoi, aussi, dans un projet un peu plus collectif.
Ouais, non, bien sûr, à chaque fois, c'est assez marrant parce que je pousse et je leur dis quand est-ce qu'on va pouvoir partager un moment de sport ou vraiment du quotidien ensemble, parce qu'il y a plein de valeurs qui peuvent être partagées, et même juste simplement de discuter en fait de notre sport, de notre quotidien, de notre motivation, de comment on travaille, comment on gère certaines situations, certains moments de vie. Et voilà, c'est simplement la journée de lancement qu'on a fait. J'ai rencontré Sarah Balzer, qui fait du sabre, et on a parlé pendant 30 minutes. Bon, j'ai quasiment parlé que à elle, tellement on a parlé longtemps, parce qu'elle était aussi fan de sport auto. Et elle connaissait pas mal de choses, donc c'était assez intéressant. Mais de rencontrer Arthur Fils, de rencontrer François Daen, parce qu'en fait, j'ai mon manager qui fait de l'ultra trail. Il est fan de ça. Et il m'a toujours dit, je veux rencontrer ce mec. Je lui ai toujours dit, le jour où je le rencontre, je lui parle de toi et j'organise une course. Comme ça, vous allez courir ensemble et vous partagez un moment ensemble où vous partagez la même passion. Mais ouais, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup, mais je pense que ça va arriver.
C'est que toi, t'as cet avantage-là quand même, c'est que... Si tu invites quelqu'un à voir une course, personne peut refuser en vrai. Tout le monde qui aime un peu le sport, qui aime un peu la performance, si tu es un peu curieux, tu as forcément envie de venir voir et te dire waouh, c'est quoi cet univers en fait.
Bah la plupart du temps, je me sens un peu coupable et tout parce qu'en fait, j'ai tellement de monde qui me demande et j'ai pas assez de place quoi, j'ai pas assez de passe et d'accréditation avec le partenariat avec Quorum l'épargne, justement, je pense qu'il va y avoir tellement de choses, je vais pouvoir partager justement avec les équipes aussi mon sport et de voir qu'est-ce que c'est et de rencontrer. On a rencontré plein de gens de l'entreprise et ça, c'était super cool aussi.
Bon, bah cool, je vois que t'es bien accompagné et que ça se passe bien. C'est quoi le projet, du coup, pour une boîte comme Quorum, l'épargne, tu vois, c'est de t'amener jusqu'en F1.
Ouais. Bah, le but, enfin, même moi, on va dire mon projet, même personnel et mon objectif, ça a toujours été, je me suis toujours dit, voilà, j'adorais et j'aimerais beaucoup avoir un sponsor titre que j'emmène avec moi en Formule 1, qui soutient mon projet, qui m'aide à faire
la bascule.
Vraiment de passer la dernière étape ensemble.
Parce qu'en F1, t'as le droit d'avoir plusieurs sponsors.
C'est un peu compliqué. Après, c'est vrai qu'en termes de contrat, il y a plein de choses. Ce qui est un peu compliqué en F1, c'est par exemple, je vais faire simple. Si tu veux un logo, par exemple, sur une voiture, t'es obligé de l'avoir sur les deux voitures. Sauf que c'est pas toi qui roule dans l'autre, c'est ton coéquipier. Donc en fait, il y a aussi une question de budget qui peut être des montagnes. Hein, mais par contre, tu peux emmener un sponsor personnel.
Ouais, okay.
Tu peux l'avoir sur ton casque, sur ta combi. Tu peux être... si tu es ambassadeur de la marque, il y a plein de pilotes qui sont ambassadeurs de sociétés, d'entreprises, de marques. Mais que eux, quoi. Ils l'ont eux personnellement sur leur combi, sur leur casque.
Ok, c'est intéressant.
Ou autre. Mais moi, j'ai très envie que ça dure longtemps, cette collaboration. Mais après, voilà, faut voir qu'est-ce que l'avenir va nous réserver. Mais j'en suis sûr, comment ça a débuté, je pense qu'on ira loin.
C'est quoi la diff entre Formule 2 et Formule 1, du coup?
Alors, c'est déjà la voiture. simplement. C'est pas la même. C'est pas la même. On a un peu moins de puissance quand même.
Elle se ressemble beaucoup quand même.
Elle se ressemble beaucoup. Il y a eu une nouvelle réglementation où là, cette année, c'est vrai que, à part l'aileron arrière, si vous la voyez, la F2, ça ressemble quand même beaucoup à une F1. Mais après, par contre, il y a quand même pas mal de différences. Le moteur, bah forcément, on a moins de puissance. On a que 620 chevaux. En F1, ils peuvent avoir plus de 1000. Donc, on a quand même un peu moins de puissance. On prend quand même, j'ai quand même pris 334 km/h l'année dernière à Bakou. Donc, ça a quand même vite. Et wow. Après, le passage en courbe. Mais j'avais pas l'impression d'être à 330.
Tu transpires à cette vitesse-là, non?
Ah, tu transpires, mais c'était surtout concentré. Hein. Je pense que t'as pas le temps de savoir que tu transpires, quoi. Après, par contre, le passage en courbe, vraiment en Formule 1, il est décuplé, quoi. C'est vraiment, tu passes beaucoup plus vite parce que t'as plus d'adhérence. T'es collé au sol. Nous, on l'est aussi, bien évidemment, mais avec la F1, il y a tellement de paramètres, tellement de. D'ailerons en plus, de flap. Enfin, si vous regardez, si vous mettez une F1 et une F2 à côté, c'est pas quand même pareil. Mais après, les pneus, la dureté du pneu et à quel point il est tendre, la carcasse, les pneus sont pas les mêmes. On n'a pas le même nombre aussi de types de pneus. Ils peuvent en avoir 3, voire 4. Nous, on en a que 2. Avec un pneu pluie pour rouler sous des conditions pluvieuses. Et après, les réglages, où c'est pas aussi pointilleux que la F1, où on peut pas changer certaines choses en temps réel. Eux, avec plein de boutons sur leur volant, ils peuvent faire plein de choses et presque changer totalement la philosophie ou le réglage et le ressenti que tu peux avoir dans la voiture. Nous, il y a des fois où il faut passer 2-3 heures dans le garage pour changer quelque chose. Mais à la fin, et les courses, le format du week-end aussi n'est pas le même. Donc on a un essai libre, une qualif, deux courses et une course sprint, donc un peu plus courte, et une course longue avec un arrêt au stand.
Ok, d'accord.
L'arrêt au stand, justement, pour nous apprendre et nous donner un avant-goût quoi, de ce qui nous attend en F1, où ils peuvent faire 1, 2, 3 arrêts au stand par course.
Ouais, donc ça, la durée des courses n'est pas la même aussi, quoi. La durée de l'effort est plus intense, plus long, quoi.
C'est en F1, ouais. C'est, on va dire, c'est à peu près 1h30 en F1. Nous, c'est 1h la plus longue. C'est déjà long, hein. Enfin, c'est quand t'es.
Tu te fais trincer, quoi.
Quand
à la
t'es
fin,
deux. Ouais, non, c'est plutôt très physique et très intense à certains moments. Après, ça dépend, en fait, du moment de la course. C'est vrai qu'il y a des moments clés, mais c'est vrai qu'en course principale, la course longue, on a un arrêt au stand. Donc, ça la divise un petit peu en deux, mais c'est vrai que ça peut être. Des fois, quand t'es tout seul en tête devant, c'est long. Tu penses à plein de choses, tu regardes autour de toi, les écrans. J'ai vu des trucs par rapport à Verstappen qui disait qu'il regardait les écrans, les grands écrans là sur la piste. Il s'ennuyait, évidemment, quand il est devant.
À 300
km/h,
il a le temps de.
Oui, mais c'est pas si. Enfin, on pourrait
pour vous,
croire.
C'est normal, en fait.
Mais on fait ça. Je fais quand même ça depuis que j'ai 12 ans. Donc ça fait 10 ans.
Ton œil,
on s'imagine pas. C'est pas comme. Je m'imagine en fait les personnes qui disent ouais, mais c'est dingue, jamais je ferais ça, mais parce que je pense que vous comparez à quand vous allez faire du karting en location, que vous en faites une fois par an, enfin t'es crispé quoi, tu sais, mais c'est vrai que quand t'es à l'aise, t'es dans ta voiture, dans ton baquet, tu fais ça depuis 10 ans, t'es concentré, mais t'as forcément des moments où tu vas être un peu parasité, tu vas être, tu vas penser à des. C'est vrai que moi, il y a des fois, j'ai pensé à des trucs pendant des courses, c'est assez marrant. C'est des trucs qui ont rien à voir avec la course, et pour autant, j'étais devant en train de gagner. Et ça me garde, je restais quand même concentré sur tous les paramètres sur quoi je devais être concentré.
Ouais, des fois, t'es tellement guidé par ton truc, t'es presque en pilote automatique et ça marche.
On roule inconsciemment. Hein. C'est l'inconscient qui nous fait faire des fois certaines choses qu'on appréhende. On n'a pas peur parce que j'ai jamais eu vraiment peur, mais voilà.
Je voulais te demander ça. T'as déjà eu peur ?
Non. J'ai non.
T'as pas eu d'accident ou de.
J'ai eu plein d'accidents, mais franchement, t'as pas le temps d'avoir peur quand tu fais un accident. Ça arrive tellement vite que non, tu reprends conscience et tu te dis ah oui là je suis dans le mur encastré dans les pneus. Les pneus au-dessus de toi et puis tu te dis bon bah là il faut sortir donc non tu t'as ouais. t'as l'instinct de survie aussi qui parle à ces moments-là mais c'est vrai qu'on n'a pas peur non.
Okay.
Je pense aucun pilote, en tout cas à partir de Formule Renault, Formule 3, Formule 2 et F1, quand ça commence vraiment à être sérieux et que t'es aux avant-postes, non, aucun pilote n'a peur.
Ok. Ouais, ce qui peut faire peur, c'est peut-être, là je pense à Romain Grosjean, mais c'est parce que tu vois, il est bloqué dans sa voiture, sa voiture est en feu et c'est peut-être plus ça qui l'a...
L'après peut-être, ouais. Quand tu vis quelque chose de... Ouais, d'extrême comme ça, peut-être.
Quoi, mais il reste bloqué quand t'as 30 encore... secondes, une minute dans la caisse en feu
30 secondes, je crois.
Ah, t'as le temps quand même de voir un peu défiler.
Là, pour le coup, j'ai jamais eu l'occasion de parler avec Romain Grosjean de ça, mais c'est vrai que l'après doit être différent. Ouais. C'est vrai que jusqu'à temps que tu vives un moment comme ça, c'est non, tu penses qu'au plaisir, au succès que tu peux avoir. En fait, à la prise de risque, si on... Moi, je le prends comme ça, en fait. C'est que si je dois passer, par exemple, un virage à fond alors qu'il pleut des cordes et que c'est hyper dangereux et qu'il y a un mur à côté, non, je vais penser au succès que je vais pouvoir avoir derrière en passant à fond le virage à la place de me dire bah, je vais possiblement me faire mal. Franchement, la dernière chose que je pense, c'est me faire mal dans une voiture.
Ouais,
parce que j'estime que aussi la sécurité a évolué et que on est bien sec... enfin après il peut toujours se passer plein de choses mais ça a bien évolué.
Est-ce que tu dirais qu'il y a autant de spécificités, de curseurs, un peu de données que tu regardes sur toi que les ingénieurs vont regarder sur la voiture?
Ouais, si, je pense. Et c'est vrai que tu parlais de la bague tout à l'heure. Non, c'est vrai que j'ai, en fait, je me rappelle avec mon grand frère, il y a peut-être 3 ans de ça, on parlait justement du sport auto et l'évolution de la voiture, à quel point elle est pointilleuse maintenant, il y a tellement de paramètres que tu te dis, bah, en fait, l'humain, il n'est pas prêt, quoi. Enfin, il n'est pas prêt à gérer autant de choses, que ce soit sur le côté physique, mental, cognitif aussi, parce que je travaille mentalement, beaucoup physiquement, mais j'essaye de le plus en plus... et le plus souvent travailler cognitivement, d'être prêt à, sous la pression, sous les moments un peu compliqués, intenses, d'être hyper lucide, de faire plein de choses à la fois, parce qu'on peut avoir des boutons à changer, des molettes à tourner, il y a plein de choses qu'on peut changer, et ça, si on n'est pas assez lucide, si on n'est pas assez prêt mentalement, physiquement, bah, le côté aussi cognitif il suit pas, quoi.
Et comment tu l'entraînes, ça?
Bah, ça peut être très simple comme très compliqué, hein. C'est par exemple un temps de, on va se mettre devant un mur de lumière, je sais pas
si
t'as déjà vu, où c'est un temps de réaction et en même temps on va devoir
faire
autre
chose.
Ah oui, t'appuies
sur les lumières dès qu'elles s'allument. Voilà. Okay.
Après tu peux allier, par exemple tu touches avec ton pied droit un autre plot quand tu touches la touche Intel. Enfin, ça peut être des trucs hyper compliqués comme hyper simples. Et après il y a des machines, des ordis où tu tapes sur des touches rouges, en même temps t'as un son, enfin t'as plein de choses qui te rendent fou quand tu le fais. T'as envie de balancer l'ordi par terre, mais justement qui te fait travailler cette lucidité et ce calme, quoi, cette sérénité quand tu fais la tâche. Mais après, il y a plein de choses. Il y a le sommeil. Hein,
tu regardes beaucoup ça?
Je regarde de plus en plus parce que j'avais un peu de difficulté là au début quand je commençais à voyager. Énormément, un peu à droite, à gauche. Et à toujours devoir être actif le lendemain, même après un long voyage. Et en fait, je pense que c'est ça sur la durée où j'ai remarqué, bah, tiens, je suis un peu fatigué là. Et je voulais voir. Mais je ne m'arrête pas qu'à ça non plus. Hein. Je sais qu'il y a plein de choses là. Dans le futur, j'aimerais aller dans un hôpital. On peut se faire mettre des électrodes, enfin je sais pas trop, pour analyser justement le sommeil et à quel point on en a besoin ou pas, dépendamment de la personne. Mais ouais, le sommeil, c'est hyper important. J'ai remarqué que le repos et la récupération, c'était aussi important que la préparation.
Ouais, clairement, même si ce n'est plus, tu vois. En fait, tu peux te mettre un volume d'entraînement de ouf, mais le repos, tu peux pas l'étendre, quoi. On a tous 24 heures dans la journée et tout. Mais écoute, si tu lis un peu, là, j'ai terminé un bouquin qui s'appelle Why We Sleep de Matthew Walker. C'est, en gros, c'est le plus gros neuroscientifique qui, pendant 15 ans, s'est mis à étudier le sommeil. Il a fait des expériences de ouf sur la mémorisation. Et moi, j'ai appris un nombre de trucs, mais je savais pas quoi. Est-ce que tu sais pourquoi les oiseaux volent en V? Tu vois un banc d'oiseaux, pourquoi ils volent en V? Mais en fait, c'est des oiseaux migrateurs.
J'ai une petite idée. Vas-y, ils prennent l'aspi de l'un et de l'autre.
Alors, effectivement, ils prennent l'aspi, mais surtout,
pour pouvoir
en
se reposer.
Ils ferment un œil et ils arrivent à endormir un côté de leur cerveau. Et du coup, quand ils ont fait plusieurs heures de vol, et ben ils switchent de côté, ils ouvrent l'autre œil et ils ferment l'œil qui était ouvert. Et du coup, c'est comme ça qu'ils arrivent à traverser des océans, à traverser la Méditerranée, en fait, sans avoir besoin de se poser. C'est parce qu'en fait, ils ont un espèce de semi-sommeil, tu vois. Et nous, on n'arrive pas à faire ça. On ne sait pas reposer une seule partie de notre cerveau par rapport à l'autre, tu vois. Et donc, il m'a appris plein de trucs. Et moi, j'ai regardé, tu vois, typiquement, j'ai un très très bon sommeil paradoxal, mais j'ai un mauvais sommeil profond. Du coup, je n'ai pas une très bonne mémoire. Et j'ai vu, en fait, la mémoire, c'est le sommeil profond, quoi. Donc là, je suis en train de mettre en place des petits protocoles pour essayer de changer ça, mais c'est ouf l'impact que ça a, hein, franchement, sur ton niveau d'énergie, ton...
Ah bah oui, cette résilience capacités. Aussi aux difficultés que tu peux rencontrer.
Ouais.
C'est aussi ça que j'ai pu remarquer.
Tu vois, t'es plus résilient quand tu dors mieux.
Ouais. Mmh. Ouais, mais ça peut être au quotidien, en sport, ou sur le côté mental, ou dans des moments très intenses, mais après ça engendre plein de choses, hein.
Bien sûr.
Mais ce côté-là, ouais.
Ok. Ah, c'est intéressant, j'avais jamais fait moi le parallèle pour moi sur la résilience, la hargne, un peu le côté. Ok.
Après, je pense que ça peut varier, oui, ça doit varier de personne en personne, mais.
Ouais. Non, mais c'est pas étonnant, ça doit être vachement lié au taux hormonaux et tout, quand tu dors bien, ok.
Mais je sais qu'aussi, tu vois, par exemple, il y a des pilotes de F1, ils sont suivis, hein, dont Hamilton.
Ouais.
J'ai lu plein de choses qui étaient suivies sur le côté sommeil, parce que, un peu moins maintenant, mais quand tu le connais et quand tu le suis, il y avait eu peut-être il y a 3-4 ans, où il se faisait des events... au Japon, alors qu'il roulait à l'autre bout, enfin au Brésil, enfin tu te dis mais comment il fait quoi, comment il va de, comment il switch du côté sportif au côté professionnel, à un moment donné il est là-bas, après il est suivi quoi.
Ouais.
Après j'ai lu plein de choses sur Ronaldo aussi qui faisait des sièges, je sais pas si tout est vrai et tout ça, mais non, il y a plein de choses sur le sommeil et la récupération. Mais c'est vrai que j'y apporte beaucoup plus...
Importance maintenant.
Ouais, beaucoup plus d'importance maintenant qu'avant. Avant, c'était vraiment que préparation physique. Mais maintenant, je me dis que la récupération, ça, c'est aussi important, voire plus.
Ouais, bah, j'imagine, vous, c'est quand même un sport méga cérébral aussi, donc le cerveau, faut le reposer. Bah, il faut que tu lises Why We Sleep.
Ouais, mais j'avais prévu, là.
Il est pas très agréable à... Le début est un peu trop scientifique, mais à la fin, c'est vraiment des conseils, des expériences qu'ils ont fait. Et tu vois, il y a des trucs assez ouf, moi, qui m'ont marqué, c'est que, bah, typiquement, par exemple, on leur fait, pendant qu'ils dorment, on leur fait écouter des trucs, tu vois. Et ce qu'on leur fait écouter, ils le retiennent beaucoup mieux, tu vois. Enfin, par exemple, on te donne une liste de 100 mots à retenir.
Mm-hmm.
On t'en fait écouter 50 pendant que tu dors. Et en fonction...
Pendant que tu dors.
Ouais, pendant que tu dors, ils mettent un petit... Ils ont fait des expériences où ils mettaient un petit haut-parleur qui répétait une cinquantaine de mots parmi les 100.
Je vais mettre ça pendant que je dors. Tu es t'es excellent, tu vas tout gagner.
Non, mais ça marche.
Allez, bah,
ça marche. Ils ont vu, ils ont vu que tu retenais 2 à 3 fois mieux les mots que t'écoutais pendant ton sommeil. Ils ont vu que si t'essayais d'apprendre quelque chose par cœur, si tu faisais une mini sieste de 5 minutes après, t'augmentais par 2 ou 3 ta capacité à capacités cognitives et tout. Donc
y a pas j'ai une petite histoire de par rapport à ça. Enfin, je pense que ça a un lien.
Vas-y, vas-y.
C'est quand j'étais, enfin j'étais à l'école, hein, j'étais au collège et j'aimais beaucoup, enfin je me couchais quand même très tard quand j'étais jeune et j'avais souvent des problèmes du coup avec mon frère, ma mère et tout, et j'apprenais mes cours à 23h minuit.
Okay.
Et en fait ma mère justement elle s'énervait, mais en même temps elle me disait ça, elle me disait mais je sais que c'est bien d'apprendre tard, comme ça après tu vas dormir, en fait t'assimiles énormément pendant que tu dors et tu retiens beaucoup plus, et du coup j'apprenais tout par cœur juste avant de dormir, et j'allais dormir et ça a toujours marché, hein, donc je pense que,
c'est vrai
ce truc.
Ouais non mais t'as raison, il en parle dans le bouquin, et le deuxième truc qu'il dit là c'est pour les ados. Tu sais, on a souvent l'image des ados qui se couchent tard, qui ont du mal et tout. Et en fait, apparemment, c'est normal. En fait, à l'adolescence, ton cycle du sommeil, il se dérégule. Et du coup, on met plus de temps à se réveiller quand on est adolescent. On a plus de mal à sortir du lit. On est plus grognon le matin et tout. Mm-hmm. On a tous l'image du film, de l'ado, qui file la tronche au réveil. Mais en fait, apparemment, c'est normal, quoi. C'est normal de se coucher plus tard et tout. Hyper, hyper intéressant. T'as d'autres routines, d'autres hacks un peu de santé ou de performance que t'as mis en place au-delà
des douches froides.
Douches froides aussi. Ok.
Des douches froides que je fais parce que j'ai lu des bienfaits là-dessus, j'ai essayé. Je me suis pas dit il y a des bienfaits, je fais, j'y vais quoi. Non, c'est que je l'ai fait et parce que je me suis senti, je me sens bien avec quoi. Ouais. Donc, vraiment tous les matins. Je dis pas que le soir, pas forcément, mais par contre tous les matins.
Ouais, sans faute.
Ouais, douche
direct
froide.
Froid.
Ouais.
Allez, comme
les vrais. Et pareil, ça, je sais que sur la résilience, sur ce sens, tu te sens fort, tu sens que tu as fait peut-être un truc de plus que les autres. Et c'est aussi tout ça qui te motive, qui te tient en ligne quoi, sur ton objectif.
Ouais.
Donc ouais, ça c'est un truc. Après j'ai un bain froid, j'y vais pas forcément, je suis un peu tout le temps en déplacement donc c'est un peu compliqué. Il est chez moi donc je peux pas tout le temps le faire, je peux pas l'avoir à l'hôtel, mais tu vois la douche froide c'est le truc que je peux avoir partout, donc ça c'est un des trucs là que j'ai en tête.
Bah trop bien, déjà c'est beaucoup hein.
Mais après de faire de la respiration, imagerie, méditation, tout ça j'essaye de faire aussi le plus possible. Mais des fois enfin je le fais dans l'avion, des fois chez moi tranquille, j'essaye de, après enfin t'as juste simplement besoin de t'asseoir quelque part, avoir un endroit calme, fermer les yeux et tu le fais, donc c'est assez simple.
Tu connais par cœur tous les circuits?
Oui. Après, par contre, ça, c'est un peu... C'est marrant quand on entame ce sujet. Si j'arriverais à le faire les yeux fermés, non, pas forcément. Et je pense que c'est faux, les pilotes qui le disent. Par contre, par cœur, oui, je le connais par cœur.
Okay.
Je connais les vibreurs. Bah, là, justement, je vais à Barcelone la semaine prochaine. Et on fait toujours des track walk, des tours de piste à pied.
C'est
un peu la traduction en français. Où justement, en fait, on... C'est aussi un moment où on va partager un moment avec notre ingénieur, notre équipe, notre coach pour discuter des améliorations qu'on emmène des week-ends d'avant, parler un peu setup, de la voiture et tout ça. Mais aussi, surtout, des points de repère, de ce qui a pu changer sur le circuit, où tu vas mettre ta roue, où tu vas pas la mettre, quelle approche tu dois avoir, les panneaux aussi de sécurité. Il y a plein de choses, quoi. Donc en fait, il faut faire ce genre de choses.
Ah ouais, ça me fait penser beaucoup aux skieurs, tu vois, qui ont le droit de descendre. Enfin, ils ont le droit à une descente, mais qui vont faire vraiment au ralenti, tout doucement, avec leur coach, pour regarder les virages, regarder l'état de la neige et tout.
Ouais,
ils ont
plus
le droit à ça, quoi.
C'est un peu comme nous. Après, c'est vrai qu'on pourrait le faire plein de fois, mais je veux dire, une fois, ça suffit. Ça suffit.
Ok. T'arrives à créer des bonnes relations justement avec les ingénieurs, avec toute l'équipe et tout.
Ouais,
c'est qui les tes rôles clés en fait, les gens avec qui tu dois vraiment bien t'entendre dans la team.
J'ai envie de dire l'ingénieur en premier. Ouais. Est-ce que c'est avec lui que tu travailles directement?
C'est l'ingénieur en chef. Il y en a un qui... Ok.
En fait, en F2, à F3, t'en as qu'un, mais en F2, t'as deux ingénieurs. T'as ton ingénieur principal, ton ingénieur de course, qui va te parler à la radio, qui va... en simple, qui va te parler à la radio, que vous pouvez entendre quand la radio, elle est retransmise. Et après, t'as celui qui est en support de l'ingénieur, qui va plus analyser, faire les exports des données, les mettre dans certains fichiers, on va dire mâcher un peu tout le travail en profondeur de l'ingénieur de course, qui doit être plus basé sur le setup de la voiture, réfléchir là-dessus, discuter avec le pilote, regarder les data, le driving, donc les données en fait de pilotage, quoi. Comment tu accélères, comment tu freines, comment tu prends le virage et tout ça. Et tu as ces deux personnes-là. Donc, tu es vraiment très proche d'eux. Après, tu as ton mécano. Mais c'est vrai qu'on en a deux. Un mécano et un aussi en support. Pour aider, parce qu'il y a quand même des fois beaucoup de boulot à faire entre les séances. Mais ce qui est un peu marrant, et en même temps... Enfin, c'est marrant parce qu'on en parle assez souvent. Mais ce qui est aussi embêtant, c'est que tu le vois jamais quoi sur un week-end de course. Tellement que tu travailles avec ton ingénieur, tu es tout le temps dans le camion, dans le garage de l'équipe, et que tu es à réfléchir sur qu'est-ce que je peux mieux faire là, tu regardes les courses en replay. En fait, tu travailles tellement que, ou en tout cas pour ma part, que limite je vois jamais mes mécaniciens. Quoi. C'est, parce qu'eux aussi, ils travaillent tellement qu'en fait, on est à peut-être 20 mètres quoi, de l'un et de l'autre, et on va se parler trois fois quoi, dans la journée.
Ok. Donc chacun est méga concentré sur sa tâche.
Ouais, ok. Et après le team principal qui est quand même très important, parce que c'est lui qui coordonne tout le monde, qui met en relation tout le monde. Donc si t'as pas non plus une bonne relation avec lui, c'est un peu compliqué. Et généralement il y a un directeur technique qui gère tous ses ingénieurs.
Je me souviens d'une conversation avec Jean-Éric Vien qui me disait que dans certaines équipes où il était passé, il aimait pas du tout l'ambiance hyper testostéronée, compète tout le monde est sous pression, ça s'engueule, des fois c'est un peu violent, un peu hard et tout.
J'ai jamais eu ça, tiens.
Toi, t'as jamais eu ça ?
Non. Franchement, jusqu'à maintenant, je suis passé dans des très bonnes équipes où je me suis à chaque fois toujours bien senti. Mais par contre, il y a eu des petites différences, hein. C'était pas toujours pareil. Il y a des équipes où c'était ça travaillait beaucoup, mais tu voyais que c'était beaucoup dans le kiff, quoi. C'est tout le monde est content d'être là, on rigole, et finalement en fait ça t'apporte d'autres choses qui sont bonnes. C'est juste que ça t'apporte, par exemple, ça m'a apporté la confiance, parce que je me disais tiens, ils sont contents, ils ont confiance en moi, tout le monde est heureux d'être là, un peu du positif, quoi. C'était vraiment du bien-être et tout avant d'aller rouler. Et on travaillait plutôt en qualité qu'en quantité. Et finalement, j'ai trouvé des belles choses à travers ça. Par contre, je suis passé dans des équipes où c'est hyper carré. C'est telle heure débrief pendant tel moment et qui apporte aussi des très bonnes choses, hein, parce que tu passes en revue plein de détails qui peuvent t'apporter... plein de choses, mais c'est vrai que du coup, moi j'ai tendance à beaucoup travailler, à passer en revue tous les domaines, et c'est vrai que si tu fais pas le switch, ou des fois tu mets pas de côté le côté comment je peux l'expliquer, si des fois tu vas pas rouler à l'instinct et au naturel et ce que tu ressens, et que tu te poses trop de questions, des fois ça marche pas forcément.
Okay.
Donc, mais franchement, dans toutes les équipes dans lesquels je suis passé, à chaque fois ça s'est très bien passé en termes de relations, travail et ce que j'ai appris. Tu t'adaptes au personnel, à l'environnement.
Bon, je vois qu'il est 57, je m'étais engagé à te libérer pour midi.
On peut tarder un peu.
non, mais écoute, on a essayé de rentrer en tout cas tout dans le créneau. J'ai deux petites questions de la fin. Est-ce qu'il y a un livre ou un film ou je sais pas, des fois je dis une série, mais bon là, pour la voiture, il y en a une à laquelle tout le monde pense, mais qui toi t'ont particulièrement inspiré récemment, tu vois, une recommandation de contenu, tiens, sur laquelle t'as beaucoup appris.
J'ai Lumiracle Morning,
Ok.
Je sais pas si ça ouais, ouais, bien quelque sûr. Chose.
Tu le fais, toi ? Tu l'as fait ?
C'est vrai que c'est compliqué, mais j'ai pris des choses du livre où, bah, tu vois, je faisais déjà tout ce qui était méditation, visualisation, douche froide, on va dire aussi une activité physique. Tu vois, je m'étire des fois souvent le matin, je médite, je visualise, je respire, tu vois, c'est... Après, j'ai adapté, mais c'est vrai qu'il est hyper intéressant ce...
Okay.
Après, je pense qu'il faut se l'incorporer à soi-même, faut pas juste le suivre
bien sûr.
Au doigt et à la lettre, mais non, il était... En fait, tu te dis quand tu lis le livre, bah tiens, je vais devenir une bête à partir de demain, mais j'ai plus pris le truc où je me suis dit, tiens, il y a peut-être des choses que je vais prendre. Non, je le recommande.
Ok. La toute dernière question, c'est de savoir quel est le prochain invité que tu me recommandes d'aller interviewer pour parler performance. Pas forcément du coup dans le monde de, tu vois, de.
Pas de corps, mais pas non plus.
Si, vas-y, tu peux, bien sûr. Mais j'ai déjà eu Sarah. Je sais que t'as parlé un peu de ça, mais j'ai déjà rencontré Sarah et François. Donc,
okay.
Mais s'il y a un ou une athlète que tu me recommandes avec qui t'as un peu échangé, ce serait grand plaisir. Dans le sport auto, peut-être un copain ou une copine avec qui t'aurais des choses intéressantes à raconter sur le haut niveau.
J'en ai pas, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de. Je côtoie pas beaucoup de grands sportifs. Et justement, c'est pour ça, enfin, c'est à côté de la plaque, mais c'est pour ça que je vais vraiment kiffer rencontrer les athlètes de Corum. Okay. Parce que justement, je vais pouvoir rencontrer des autres sportifs. Non, j'en ai pas en tête, là.
Bah écoute, on fait une petite passe pour Romain Dico qui sortira juste après.
C'est vrai.
Okay. ouais, ça roule. Bah écoute, merci beaucoup, Victor. Je me suis régalé. C'était un pur moment.
Moi aussi.
J'espère que t'as kiffé aussi.
Ouais.
Et cool. Tu nous as fait une vraie masterclass sur plein de sujets et tout. Et je vois que tu mets plein de trucs en place. Donc c'était trop intéressant. Merci à toi.
Merci. Merci pour l'invitation. C'était cool.
À plus.
À plus.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com, code PROGRAM.